Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Moi, personnellement, j'aurais préféré faire une émission sur les crêpes de la Chandeleur. Confiture ou beurre? Sucre ou pâte à tartiner? Et finalement, êtes-vous plutôt gaufre ou crêpe? Préférez-vous les bugnes ou les oreillettes? Tant de questions philosophiques, tant de vrais débats qui méritent tout notre intérêt. Mais comme je suis démago, peu inspirée, pas inspirante, voici une émission sur ce grand jour qui nous attend en fin de semaine et qui accapare toute notre attention, la Saint-Valentin. Non, vous ne trouverez pas dans cette émission des conseils beauté, maquillage, vêtements, bijoux, harmonie des couleurs, ni la liste des restos grenoblois à choisir pour ravir votre Valentin ou votre Valentine. Non, non, non. Contre toute attente, je vais plutôt vous parler d'amour au lieu d'essayer de vous en vendre. Et on va commencer cette émission par un conte un peu mignon, emprunté au folklore oriental. Voici la plus belle chose au monde. Une jeune fille avait trois prétendants. Un prince, un marchand et un jardinier. Les deux premiers étaient très riches, le troisième ne possédait rien, hormis une bouche rieuse et des yeux pleins de charme. Comme tous trois lui plaisaient et qu'elle était en peine de choisir l'un d'entre eux, la jeune fille décida de s'en remettre au sort. « J'épouserai celui qui m'offrira la plus belle chose au monde », promit-elle. Le prince, aussitôt, releva le défi. « Dussé-je traverser 1000 pays, je t'apporterai ce que tu désires », répondit-il. Et il partit, à la tête d'une immense caravane, chercher par-delà les déserts, l'objet capable de conquérir le cœur de la jeune fille. Le marchand ne fut pas en reste. « Dussé-je franchir 1000 océans, je t'apporterai ce que tu désires », déclara-t-il. Et il affréta une flotte de 100 navires afin de découvrir, par-delà les mers, l'objet capable de conquérir le cœur de la jeune fille. Quant au troisième, il ne dit rien, mais s'en fut, tête basse, retrouver son râteau, sa pelle et sa binette. Une année passa avant que ne reviennent les trois aventuriers. Enfin, un beau matin, le prince se présenta à la porte de la maison. Il tenait par la bride un grand cheval ailé, tout caparaçonné d'or et d'argent. « Voici mon cadeau, » dit-il. « Je l'ai volé à un dieu au péril de ma vie. Grâce à cette monture, tu pourras visiter la lune et les étoiles. » « C'est un magnifique présent, » reconnut la jeune fille, ravie, en caressant les naseaux tièdes de la bête. Le marchand vint à son tour. Il portait un calice serti de diamants empli d'un liquide d'une pureté extrême. « Voici mon cadeau, » dit-il à la jeune fille. « Je l'ai volé à une fée au péril de ma vie. Grâce à cette eau de jouvence, tu demeureras jeune et belle à jamais. » « C'est un magnifique présent, » reconnut la jeune fille, éblouie, en effleurant du doigt la coupe scintillante. Le jardinier, qui se tenait humblement en retrait, s'avança alors. De sa poche, il sortit un petit miroir et le tendit à la jeune fille en disant « Voici mon cadeau, je l'ai acheté sur le marché pour quelques piastres. » La jeune fille eut un mouvement de surprise. « C'est tout ? » s'écria-t-elle. « Regarde-le bien. » « Tu y verras la plus belle chose au monde. » La jeune fille saisit le miroir, le regarda et y vit le reflet de son propre visage. « Alors, » reprit le jardinier, « n'avais-je point raison ? Existe-t-il au monde une chose plus belle ?» Comprenant que c'était là le vrai langage de l'amour, la fille le prit pour fiancé. « Car, qui mieux qu'un mari aimant peut vous faire visiter la lune et les étoiles ? Et où demeure-t-on jeune et belle à jamais, si ce n'est dans les regards d'un homme épris ? Qui sont les personnages dans cette histoire ? Bon, alors d'abord, bien sûr, il y a la jeune fille. Une fille matérialiste qui, pour arriver à se décider entre ses trois prétendants, ne se base pas sur les sentiments qu'ils éprouvent pour elle, ou sur leur richesse, ou leur apparence, mais plutôt sur ce qu'ils sont capables de dénicher au bout du monde. Alors du coup, on a l'image d'une fille superficielle avec des hommes à ses pieds qui sont prêts à tout pour elle. Moi, je l'imagine bien, pendant que les hommes étaient en train de faire le tour du monde et de risquer leur vie pour lui ramener un souvenir de vacances, être en train d'acheter des vêtements sur Amazon tout en téléchargeant des films sur une plateforme de streaming en confondant, encore une fois, les déchets qui vont dans la poubelle verte et ceux qui vont dans la poubelle grise. Oui, on l'aura compris, j'ai, à ce moment-là de l'histoire, peu de sympathie pour ce personnage. Heureusement, le personnage va évoluer. La bonne nouvelle, c'est que la jeune fille va se faire prendre à son propre jeu. Elle, qui voulait une chose, donc un objet comme preuve d'amour, sera finalement séduite par l'attitude du jardinier. Ouf, elle n'est peut-être pas si superficielle que ça. Alors dans cette histoire, il y a la jeune fille, mais il y a aussi les trois hommes, bien sûr. L'image de l'homme, parlons-en un petit peu. Ils se soumettent au bon vouloir de la jeune fille et se mettent à son service. Ils sont prêts à tout sacrifier, et ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, « Dussé-je traverser 1000 pays, je t'apporterai ce que tu désires. Dussé-je traverser 1000 océans, je t'apporterai ce que tu désires. » Non mais au secours ! L'image de l'homme servile qui rampe devant une femme qui n'en a pas grand-chose à faire de lui et qui préfère de loin recevoir une carte cadeau chez Yves Rocher plutôt qu'une déclaration d'amour. C'est la course à celui qui en fait le plus. Celui qui déploiera les plus grands moyens. L'un se dit prêt à traverser 1000 pays, part à la tête d'un immense navire, l'autre se dit prêt à franchir 1000 océans et part à la tête d'une immense caravane. On est dans la surenchère. Et avec eux, l'impossible devient possible. Les choses ramenées par le prince et le marchand sont des choses introuvables dans notre réalité. Un cheval ailé, une eau de jouvence. Mais ça ne s'arrête pas là. Ces choses ramenées ont pour objectif d'atteindre l'inatteignable, c'est-à-dire visiter la lune et les étoiles, demeurer jeune et belle à jamais. Et ça ne s'arrête pas là non plus, car en plus d'objets merveilleux, d'objectifs fantasques, le prince et le marchand ont risqué leur vie pour amener ce présent. Donc, ils rajoutent une notion de danger et presque de sacrifice, puisqu'ils ont ramené le cheval ailé et l'eau de jouvence en volant respectivement un dieu et une fée au péril de leur vie, comme il le précise. Face à cette surenchère, face à ces deux hommes, le jardinier, par sa profession, l'objet qu'il ramène dont la valeur marchande est ridicule comme il le dit, et son attitude, paraît d'autant plus modeste, voire un tantinet indifférent. Aux yeux du prince, du marchand et de la jeune fille, on dirait qu'il n'a fait aucun effort, pris aucun risque, et cela semble, dans un premier temps, enlever de la valeur à l'objet qu'il ramène. Le dénouement de l'histoire nous montre qu'au contraire, il est humble et modeste. Et que l'objet ramené a pour but de montrer l'intensité de ses sentiments et de faire comprendre à la jeune fille qu'en termes de beauté, rien ne lui arrive à la cheville. Donc, en passant, il éduque un peu la jeune fille sur la notion de beauté et renvoie les prétendants dans leur tanière, car en voulant ramener la plus belle chose au monde, le prince et le marchand insinuent qu'il y a des choses sur cette terre qui sont plus belles que la jeune fille. Pour résumer, le jardinier, en plus d'avoir une bouche rieuse et des yeux pleins de charme, comme on ne le dit au début de l'histoire, est humble, modeste et intelligent. L'autre personnage de cette histoire, c'est bien sûr la beauté. La beauté comme un fil rouge dans ce conte. La jeune fille veut la plus belle chose au monde. On lui ramène des fragments de beauté volés aux confins du monde. Un cheval caparaçonné d'or et d'argent, un calice serti de diamants, une coupe scintillante. On parle d'un liquide qui est d'une pureté extrême. Et la jeune fille qualifie ces cadeaux de magnifiques présents. C'est grâce à la recherche de la beauté que le jardinier va se démarquer des autres prétendants. Et c'est grâce à la beauté que l'amour apparaîtra aux yeux de la jeune fille. Un petit mot sur la fin de l'histoire. Alors oui, la fin de cette histoire est un peu convenue. La modestie du plus démuni est récompensée. Celui qui n'a rien à part ses sentiments et son honnêteté obtiendra le cœur de la jeune fille. Mais heureusement, si on gratte un peu, on voit que cette fin pleine de bons sentiments montre que la jeune fille ne voit que ce qu'elle veut bien voir. Elle aurait pu, en se voyant dans le miroir, se dire qu'elle est tellement belle que personne ne la mérite. Que sa beauté surpasse toutes les choses, tous les objets du monde. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Le reflet du miroir ne la renvoie pas à elle-même, Elle souligne la modestie du jardinier. En lui montrant son reflet, c'est comme s'il disait « Je n'ai rien trouvé de plus beau que toi, car il n'existe rien de plus beau que toi. » Dans son propre reflet, elle voit ou découvre l'amour que lui porte le jardinier. Cette fin rend justice à la modestie du jardinier et montre que la jeune fille aura gagné, au passage, une petite leçon sur la notion de beauté et sur le matérialisme. Si jamais vous voulez m'envoyer des fleurs, des roses, des chocolats, un nain de jardin, un ouvre-boîte ou des cimaises pour fêter la Saint-Valentin, n'hésitez pas et envoyez tout ça à Bâtiment Ève, 701 Avenue Centrale, Domaine Universitaire, 38400 Saint-Martin-d'Hères, Sedels. On reste toujours dans le sentiment amoureux et cette fois-ci c'est Mélodie Liardot avec Baby I'm a Fool.
That this was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Maybe I should hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love. Vous
êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Compte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations.
Hop, 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 partez pas si vite, on n'en a pas fini avec l'amour. Voici pour continuer un conte intitulé La conférence des papillons. Ça se passe dans une forêt, dans les battements du cœur de la nuit, un peu dans le silence, tout à fait dans l'obscurité. Et subitement, un cri. Le cri d'un papillon de nuit affolé. Ça a l'air de rien comme ça, un cri de papillon. Mais pour les papillons de la nuit, ça a été comme un appel.
Alors, de partout de la forêt, ils sont arrivés en volant le plus vite possible qu'ils pouvaient, en passant sous les branches, en frôlant les fleurs closes, et ils se sont réunis autour du papillon affolé. Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et le petit papillon de nuit, le cœur brûlant, n'arrivait plus à parler. Il pouvait juste dire dans un souffle « Je l'ai vue ! Je l'ai vue ! C'est elle ! Je l'ai vue !»
Oui, mais t'as vu quoi ? Et là, il ne savait plus répondre.
Alors l'assemblée des papillons autour de lui a dit « Bon, d'accord, très bien. Si tu n'es plus capable de parler, montre-nous ce que tu as vu. » Et ça, il pouvait le faire, le papillon. Alors il part en tête, dans la nuit et dans la forêt. On n'entendait que les battements d'ailes de papillons. Ils sont passés sous les branches des vieux chênes et ils sont arrivés dans une clairière. Au milieu de cette clairière, une tour. Une tour qui s'élève haut, très haut. Et au sommet de la tour, un trou dans la pierre. C'est le reste d'une lucarne. Et derrière cette lucarne, une lueur. Le petit papillon de nuit affolé a agité ses antennes dans la direction de la lueur et il a dit « C'est elle !» Derrière lui, tous les papillons de nuit planaient dans l'air en disant « Oh, c'est elle !» Tous, sauf un. Le vieux, le sage, l'ancien. Lui, il a grogné et il a dit aux autres papillons « Ça ne va pas. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Il faut que l'un d'entre nous aille voir de plus près. » Il a scruté l'assemblée des papillons et il a désigné le plus fort d'entre eux. Alors celui-là a gonflé ses muscles de papillon et il a volé jusque tout en haut de la tour. De l'autre côté de la lucarne, il voit danser la flamme. Il redescend et revient devant l'assemblée des papillons. « Elle est belle ! Elle a dansé pour moi !» Face à lui, tous les papillons s'extasient, tous sauf un, le vieux, le sage, l'ancien. Il grogne et il dit « Non, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Il faut que l'un d'entre nous aille voir de plus près. » Il scrute l'assemblée des papillons et il désigne le plus raisonnable d'entre eux. « Toi, vas-y. » Alors ce papillon-là s'est élevé jusque tout en haut de la tour. Il est passé de l'autre côté de la lucarne. Il s'est approché un peu plus près d'elle. Il s'est baigné dans sa chaleur. Et il est ressorti. Il a dit aux autres papillons « Elle est chaude et belle et elle m'a caressée. » Face à lui, tous les papillons s'extasient, tous, sauf un. Le vieux, le sage, l'ancien. Il grogne et il dit « Non, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Il faut que l'un d'entre nous aille voir de plus près. » Il scrute l'assemblée des papillons et avant de pouvoir désigner l'un d'entre eux, il y a un papillon qui s'élève sans qu'on lui demande rien. Son cœur est brûlant. Impatient, il monte jusqu'en haut de la tour et à l'intérieur de lui, une phrase comme un tambour qui dit « En amour, il faut oser tout ce qui est à craindre. » Le voilà qui passe à travers la lucarne. Il voit danser la flamme, il s'approche d'elle, se baigne dans sa lumière, dans sa chaleur et il plonge vers elle. L'étreinte du papillon et de la flamme est éphémère et magnifique. Dans la clairière, il y a un silence de papillon. Alors le vieux, le sage, l'ancien, bougonne et dit « Voilà, lui, il sait. » Dans cette histoire, j'aime bien le vieux papillon rabat-joie, un peu aigri, qui nous donne l'impression d'être passé à côté de sa vie. Avec ce proverbe sorti d'on ne sait où, on ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Proverbe tout à fait discutable et qui soulève bien des questions que je vous laisserai aborder lors de votre prochain dîner en famille. En tout cas, on a deux types de personnages bien distincts. D'un côté, les jeunes papillons fougueux qui sont amoureux de ceux qu'ils ne connaissent pas, et de l'autre, l'ancien, qui reste sur ses réserves et qui, sans s'être brûlé les ailes, au sens littéral, a vu sa vie se consumer et passer sans lui. Le vieux papillon n'est pas satisfait par le papillon fort, ni par le papillon raisonnable, qui ont approché la flamme. Il est, en revanche, tout à fait convaincu par celui qui se jette dans la flamme et n'en ressortira pas.
C'est comme s'il disait que la force et la raison, c'est-à-dire le corps et l'esprit, sont impuissants face aux sentiments amoureux. Que pour le connaître, ce sentiment amoureux, il faut le vivre depuis l'intérieur et ne pas se contenter de le regarder de l'extérieur. Et l'image de l'amour, dans ce conte, c'est vrai qu'elle est un peu surprenante. L'amour est montré comme un sentiment beau, fascinant, attirant, mais aussi dangereux, éphémère et mortel. Il est montré dans toute sa puissance. Le tableau est loin d'être exhaustif et l'image donnée est ambivalente, mais sa dangerosité n'est pas cachée ni amoindrie. Elle est au contraire sublimée et elle rend le sentiment amoureux encore plus attirant, donnant du courage pour venir s'y frotter. Le papillon qui s'étreindra avec la flamme ne dit-il pas « En amour, il faut oser tout ce qui est à craindre », alimentant encore un peu l'idée que l'amour est un terrain miné qu'on a malgré tout envie de traverser. Pour terminer cette émission, je voudrais vous raconter une histoire, un conte dont je ne me lasse pas. Je n'irai pas plus loin que le dernier mot, vous laissant le soin de le comprendre et d'en faire ce que vous voulez. Il s'agit de l'homme aux 100 nuits. Non. Non, elle n'épousera pas le sultan. Parce qu'elle n'en a pas envie, parce qu'il ne lui plaît pas, parce que sa vie lui va très bien comme ça. Et lui, il peut avoir tout ce qu'il veut. Sa richesse n'a pas de limite. Mais pour son plus grand malheur, il est tombé amoureux d'une femme qui ne veut pas de lui. Il a essayé de la charmer par des fleurs, des mots, des attentions. Il a été patient, charmeur. Il s'est agenouillé, lui a promis qu'il la ferait reine, mais rien de tout cela n'a trouvé un écho dans le cœur de celle qu'il aime. Alors il a pris sa patience et un tabouret, et il est allé dans le jardin qui entourait la maison de la jeune femme. Elle était à sa fenêtre, curieuse de voir ce que le sultan mijotait. « Chaque soir, je vais venir ici, m'asseoir sur ce tabouret en bas de ta fenêtre, et je ne partirai qu'au matin levé. Cent nuits durant, je viendrai et à la fin je t'épouserai, car tu m'aimeras enfin. » En entendant ça, la femme se fend d'un rire si fort et si clair qu'on aurait dit un sac de billes lâché dans un escalier. Aimer un homme qui s'impose à elle, c'est insensé. Elle le repousse depuis tant de temps déjà qu'elle ne voit pas pourquoi elle tomberait amoureuse de lui après 100 nuits passées à le regarder assis dans son jardin. Mais le sultan fait ce qu'il a dit. Au premier soir, la belle n'ouvre même pas les volets pour le regarder. Mais elle a espionné entre les planches de bois pour voir s'il allait venir. C'était juste de la curiosité, vous comprenez. Un homme qui n'a rien d'autre à faire de ses nuits que de venir s'asseoir dans un jardin n'est assurément pas un homme à épouser. Lors de la première semaine, toutes les nuits, il est venu s'asseoir dans le jardin. Et toutes les nuits, la femme l'a espionné à travers les persiennes. C'était juste pour voir s'il tenait sa promesse, vous comprenez. Les 30 premières nuits passent ainsi, l'homme en bas, assis, la femme en haut, debout, ensemble, dans la même nuit, dans le même monde. La femme doit bien admettre que le sultan commence à piquer sa curiosité. Elle ne peut pas nier que c'est un homme de parole, doté de patience, et quand les rayons de lune se déposent sur ses cheveux, il est plutôt... plutôt charmant. 30 nuits passent encore, et à présent, la femme attend avec impatience le moment où le soleil se couche, enfin pour laisser la place au sultan. Elle a entrouvert les volets pour mieux le voir et pour lui dire qu'elle prend goût à leur rencontre silencieuse. Lors des 30 nuits suivantes, les volets sont ouverts en grand. Le sultan et la jeune femme s'échangent de longs regards muets où les sentiments prennent tellement de place que les mots seraient de trop. Elle ne peut pas le nier. Le sultan avait raison, elle est tombée éperdument amoureuse de lui. Bientôt la 100e nuit arrive. La jeune femme met ses plus beaux bijoux, se pare des soies les plus douces, se couvre des parfums les plus enivrants. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée de la nuit et cet homme sera à elle pour toujours. Le soleil s'incline, la lune s'élève. Il fait nuit dans le jardin, mais l'homme au tabouret n'est pas encore là. L'impatience la gagne, la brûle, la dévore. Il se fait attendre. Elle ne peut pas le lui reprocher, elle qui l'a si longtemps repoussé. La lune est haute à présent, mais l'homme reste absent. Le jardin baigne dans une laiteuse lumière. Le printemps ne tarderait pas à venir. Les premières fleurs se font déjà pressentir. Le sultan ne devrait plus tarder.
Le soleil finit par se lever sans que le sultan ne soit arrivé. La femme reçoit les rayons du soleil comme autant de coups de poignard. Il a dû arriver quelque chose à son bien-aimé, c'est impossible autrement. Elle fait le tour de la ville, demandant après lui auprès de tous ceux qu'elle croise. Tout le monde lui dit la même chose. Mais enfin, elle n'était pas au courant. Il est parti hier pour toujours, sans avoir l'intention de revenir.
C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.